trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous, le directeur adjoint de la gestion de DNCA. Bonsoir François.
Bonsoir Grégoire.
Alexandre Taïeb nous accompagne également, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Grégoire.
Et Alain Dubrulle avec nous également. Bonsoir Alain.
Bonsoir Grégoire.
Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Commençons par le chiffre important du jour, l'inflation américaine. Deux mois de surprise à la baisse sur l'inflation américaine. Est-ce que ça permet de restaurer la confiance qui avait été perdue sur les trois premiers mois de l'année du point de vue de la Réserve fédérale américaine, François? Et est-ce que ça a fini de lever les derniers obstacles qui permettront à la Fed d'enclencher un mouvement dans les prochains mois?
Oui, je pense clairement que ça, c'est un soulagement pour les marchés. La Fed avait besoin de ce chiffre pour confirmer la désinflation qui est un processus enclenché depuis maintenant un peu plus d'un an. On peut toujours regarder dans les détails et c'est ça qui fait l'intérêt de notre métier. On peut se rendre compte que finalement les chiffres sont effectivement en dessous des attentes, mais très légèrement en dessous des attentes. On fait -0,1, le -0,1 c'est -0,05 et puis arrondi. Donc les arrondis aident un petit peu le print du chiffre, mais c'est de bon augure pour la Fed. Tant mieux pour elle. Ça lui permettra de baisser ses taux. Ce qu'on voit aussi nous chez DNCA, c'est qu'il y a une certaine pattern de saisonnalité qui s'est mis en place sur l'inflation américaine, qu'on a globalement des surprises haussières en début d'année et des surprises un peu moins haussières à partir de la deuxième partie de l'année.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est de bon augure pour la Fed et oui, ça devrait ouvrir la porte à une baisse des taux. Juillet, ça nous paraît un peu trop tôt. Clairement
pour une question de calendrier,
pour une question de calendrier, pour une question
de 30 et 31 juillet la Fed.
En fait, il y a deux raisons pour lesquelles la Fed pourrait baisser ses taux d'intérêt. La première, c'est la désinflation. Et c'est effectivement pour cette raison qu'elle baissera ses taux d'intérêt. Et il n'y a pas d'urgence. On a quand même eu quatre chiffres consécutifs trop hauts. On a deux chiffres plus bas, c'est une bonne chose. Donc ça permet à la Fed de dire qu'elle va baisser ses taux d'intérêt. Néanmoins, il n'y a aucun caractère d'urgence à le faire. L'économie américaine n'est pas au bord de la récession. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle la Fed pourrait être amenée à baisser ses taux. C'est si on avait des craintes de récession, d'envoler du chômage. Oui, là, on aurait urgence à baisser les taux, à faire éventuellement des mouvements de 50 points de base, mais on n'en est pas à ce niveau-là. C'est important de préannoncer les choses. Donc oui, Jérôme Powell va nous annoncer qu'il baissera les taux sans doute au mois de septembre, à moins d'une catastrophe d'ici la réunion de la fin du mois de juillet. On devrait rester sur un statu quo.
Et vous dites que la Fed, à ce stade, n'est pas à deux mois près en termes de timing pour toujours espérer s'offrir un soft landing de l'activité économique américaine. La balance des risques reste quand même suffisamment équilibrée. Ou est-ce qu'il y a un risque naissant quand même d'une Fed qui pourrait, le 18 septembre, puisque ce sera la date de la première baisse de taux de la Fed, de toutes choses égales par ailleurs, qui pourrait à ce moment-là apparaître un peu en retard peut-être par rapport à la situation de l'inflation et de l'activité américaine?
Franchement, 25 BP sur deux mois, c'est pas ça qui changera la phase de l'économie américaine. Donc je pense vraiment que c'est surtout de la communication vis-à-vis du marché. On parlera peut-être des marchés equity tout à l'heure. Le S&P est en hausse de 19% depuis le début d'année. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de donner un coup de boost à ce niveau-là? Je suis pas certain non plus. Donc je pense qu'ils réussissent à maîtriser parfaitement leur communication, ils réussissent à achever un soft landing. Pourquoi se précipiter ou trop tarder? Mais toutes les portes sont ouvertes pour une baisse des taux au mois de septembre plutôt qu'à la fin du mois de juillet.
C'est sûr que la perf du S&P 500 fait pas partie des sujets d'inquiétude. En revanche, ce qui est intéressant, c'est sur la séance du jour, c'est de voir que le S&P fait rien quand le Russell 2000 et les small cap américaines, elles, rebondissent très fortement de 2,5-3%. C'est peut-être cette partie-là du marché aussi que la Fed veut pouvoir soulager à un moment ou à un autre.
Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait.
Bon, Alexandre, sur cette idée de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, enfin, c'était devenu presque l'arlésienne, mais là, ça semble quand même se confirmer. Est-ce que la Fed est encore dans le bon tempo et Si désormais le marché peut assumer l'idée sérieuse d'une baisse de taux et de quelques baisses de taux à venir, qu'est-ce que ça change dans la dynamique du marché américain ?
Alors oui, ça se profile bien, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec ça. Ce sera plutôt pour septembre, effectivement, juillet semble un peu tôt et ça permettra à Jérôme Powell d'avoir le temps de la confirmation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder toujours, hein, même sur un mois, à l'intérieur des composants de l'inflation, ce qui baisse. Et on a enfin le résultat de la moins bonne macro, ou une macro moins en surchauffe, avec un ISM des services qui est repassé en contraction. Et là, on voit que sur l'inflation des services, ça commence à caler un petit peu. On parlait en préambule de Delta Airlines, on voit des baisses de prix au niveau des compagnies aériennes. C'est une petite composante, mais ça joue. Au niveau de l'immobilier, donc ce qu'on appelle le shelter, hein, l'immobilier au global, on n'a pas de variation négative, mais on a une croissance beaucoup moins forte.
Une moindre hausse des prix dans ce domaine-là.
On est à plus 0,10 sur le mois sur le côté immobilier, ce qui est la plus grosse composante de l'inflation. Et en plus, sur l'inflation nominale, on a un effet de base assez sympa sur l'énergie qui baisse encore de quelques points de pourcentage. Donc oui, ça lui laisse le temps. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit juste à la fin de votre intervention, c'est comment le marché réagit.
Ah bah ouais, aujourd'hui c'est intéressant. Ouais.
Donc là, on a une course au Russell.
Nasdaq moins 1 et le Russell fait plus 2, plus 3.
Quoi. Exactement. Et donc on a une course à ce qui est en retard. Donc il y a le Russell. Dans le Nasdaq, il y a quand même des choses qui montent. C'est tout ce qui est non-profitable tech, donc la tech non-profitable. On a les noms qui sont les plus shortés, qui montent le plus aujourd'hui. Donc on a une espèce de peur de rater le mouvement ou le changement de leadership qui a été assez brutal, je trouve. Donc on verra si ça se poursuit. Mais en termes de marché, comment le marché va réagir, je pense que globalement c'est positif. C'est-à-dire que les prochaines étapes, ça va être effectivement un Jérôme Powell fin juillet qui est un peu plus dovish. Probablement au niveau de Jackson Hole, qui est encore un peu plus dovish, et puis septembre, la première baisse de taux qui amènera peut-être un petit cycle de baisse de taux de 25 points de base à chaque réunion.
Mais est-ce que paradoxalement, ça veut dire que quelques baisses de taux de la Fed ne soutiendront pas autant le Nasdaq que le Russell 2000, par exemple?
Non, ça soutiendra pas autant le Nasdaq.
On a beaucoup parlé de ces valeurs de croissance qui souffraient pendant la phase de hausse forcenée des taux directeurs. Bon, elles ont rebondi évidemment très fortement, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais en termes de valorisation, normalement, on se dit que ces valeurs-là sont aidées par des baisses de taux.
Normalement, oui, mais il y a quelque chose qui a quand même fortement changé, c'est que donc vous avez une concentration de la capitalisation de l'indice Nasdaq sur les 7 magnifiques, voire sur les GAFA, qui font un peu office. On le voit d'ailleurs, c'est quand il y a une mauvaise nouvelle que ces valeurs-là marchent le mieux, donc qui font presque office de valeur
de refuge, mais bien sûr.
Donc si vous avez un marché qui redevient positif, c'est pas là-dessus qu'il ira en priorité. D'accord. Il ira sur d'autres composantes du Nasdaq, mais pas sur celle-là.
C'est un arbitrage, c'est le concours. Enfin oui, c'est le concours entre ces valeurs dites refuge et le vrai risk-on qu'on voit aujourd'hui.
Exactement.
Sur
donc si vous sortez de ces grosses capitalisations, vous tirez un peu l'indice vers le bas.
Bon, qu'est-ce que ça vous inspire ? L'idée ou la confirmation de l'idée que la Fed sera sans doute en position de baisser ses taux en septembre ? Ça fait un moment qu'on l'attend, Alain.
Je dirais, je pense que tout le monde l'attend à l'automne. Après, il y a eu tellement de chiffres ces derniers mois qui venaient contredire cette idée que là, c'est vrai que l'inflation, le marché réagit énormément sur 0,1 point au-dessus, 0,1 point en dessous, quelque part, quand on y réfléchit. C'est quand même incroyable, mais c'est juste une traduction des espérances. C'est que là, a priori, le consensus est que ça baisse à l'automne, mais là, entre ce qu'a dit Powell il y a deux jours et ça, visiblement, on peut dire que ça commence à être bon. Et puis les résultats des entreprises, en Europe, je ne suis pas persuadé qu'ils vont être extraordinaires, et peut-être qu'aux États-Unis, ça a commencé à plafonner un petit peu aussi. Donc tout ça contribue finalement à...
Ralentissement de l'économie américaine, ralentissement de l'inflation américaine, ça peut se retrouver quand même dans des résultats d'entreprise ou des chiffres d'activité un peu moins bons.
Un peu moins extraordinaire, mais si ça reste un peu moins bon, mais sans plus, ça ne viendra que conforter cette idée. Parce que ce qui pourrait venir contredire la possible baisse des taux, c'est que si les boîtes continuent à avoir des résultats extraordinaires, on va se dire, oh là là, ça ne va pas, elles vont continuer à investir, elles vont continuer à embaucher. Alors que là, tout va un peu dans le même sens d'un tassement, on va dire, qui, tant qu'il est modeste, est plutôt bien vu par les marchés parce qu'il ouvre la voie à une baisse des taux.
C'est pas un revirement. On n'est pas dans l'idée d'un renversement de l'économie américaine.
Hébert pourrait être tenté de dire que ça fait tellement longtemps qu'on a été élevé qu'un jour ça va coûter cher. Mais en fait, la dynamique est quand même très bonne. Il y a des vrais. Il y a l'IA. Enfin, la tech est à monter, mais aussi parce qu'il se passe des choses dans la
tech. Oui, oui. Ah bah, voilà. Bien sûr.
Donc, je dirais qu'à ce stade, les nouvelles marginalement négatives pour l'activité sont en fait très bonnes pour les marchés parce que ça ouvre la voie à une baisse des taux qui n'a, rappelons-le, même pas commencé. Mmh. Alors effectivement, après, sur le mix des sociétés, ben, c'est vrai que tout le monde le dit, mais la hausse du marché, le S&P à plus 15, en fait, le Russell, il est à zéro encore depuis le début de l'année. Mmh. Et si on enlève un nombre assez limité de grosses capis, en réalité, il ne s'est rien passé. Donc c'est vrai que, bon, oublions les grosses capis, mais toutes les autres, c'est sûr que pour la baisse, si les taux baissent, elles ont largement de quoi rattraper. Et on pourrait avoir ce qu'on vient d'avoir depuis le début de cet après-midi, c'est un peu ce qui s'est passé en
novembre. Si les taux baissent, c'est qu'il n'y a pas de récession.
Oui, oui. Enfin, si les taux baissent modérément.
Oui.
On pourra voir ce qui s'est passé en novembre-décembre. C'était un gros rallye de tous les small mid, toutes les boîtes normales, voire. Et quand on parlait de tech, effectivement, la tech qui perd de l'argent, celle qui a besoin de se refinancer, c'est elle qui a beaucoup souffert. Nous, on a un fonds innovation qui est pas mal en valeur américaine, mais plutôt sur les valeurs moyennes. Et même s'il y a des dynamiques intéressantes, les valeurs moyennes slash qui perdent de l'argent, donc qui ont besoin de se refinancer,
c'est elles qui ont souffert.
Elles n'ont pas tellement participé au rallye de début d'année. Et on est assez convaincu que là, en revanche, dans ce genre de scénario, elles pourraient bien en profiter. Moi, je vois aussi en Europe, les ASML & Co, qui étaient encore très, très forts depuis 15 heures, on sent un retour de vapeur. Elles baissotent légèrement et les gens vont aller chercher plutôt ce qui doit rebondir normalement. Ouais.
Comment on se positionne, comment on joue l'idée de la baisse de taux aux États-Unis, à commencer peut-être sur la courbe américaine, sur le marché obligataire. Qu'est-ce que ça implique pour vous, François ?
Oh bah ça implique que les échéances courtes sont en train de baisser. Bon, c'est vrai que le rôle du marché est de presser tout de suite. Donc, effectivement, les taux courts, on l'entendait tout à l'heure, baisse de 12 points de base, alors que les taux longs baissent de 10 points de base. Donc, on voit une légère repentification de la courbe. On s'attend à ce que cette repentification se poursuive. La question, c'est de savoir si ce sera par des baisses de taux plus rapide qu'anticipé ou si ce sera par quelques dérapages politiques sur le plan plan fiscal qui font craindre pour la soutenabilité de la dette américaine ou un peu des deux. Les deux sont pas incompatibles. Donc oui, nous, notre idée, c'est que on va vers une pontification de la courbe des taux américaines. On reste assez confiant sur le scénario de croissance. Oui, on est en soft landing, ça fait aucun doute. Il y a pas mal d'éléments qui nous font penser qu'on ne devrait pas aller vers un hard landing. La Fed a réussi jusqu'à présent à faire ralentir l'économie. Elle a énormément de cartouches pour venir aider l'économie si celle-ci venait à ralentir de manière plus importante. Les revenus réels sont en augmentation assez significative encore. Donc on ne voit pas de gros ralentissement. Donc sur le plan la courbe des taux d'intérêt, on est assez confiant sur cette pontification à venir. Pas énormément de risques non plus sur le marché du crédit. Et puis sur le marché actions, une séance comme celle d'aujourd'hui nous fait plaisir, hein, parce que effectivement on s'attend et ça fait peut-être quelques temps déjà qu'on s'y attend, donc on a été sans doute un peu trop avant-gardiste là-dessus par rapport au marché à un rattrapage des petites et des moyennes valeurs.
Toute la partie du marché qui a rien fait.
Ouais, exactement. Quand on regarde la valorisation des GAFAM ou de toute une partie de la cote du Nasdaq, on est sur des niveaux qui sont assez stratosphériques, alors qu'on a toute une partie de la cote qui reste très bon marché. Donc on va avoir un rééquilibrage. Est-ce qu'il aura lieu dans un mois, dans six mois, dans un an ou dans trois ans? J'en sais malheureusement rien. Mais le fait est qu'en tant que gérant de portefeuille, on doit être positionné sur ce qui nous paraît bon marché et que des journées comme celle d'aujourd'hui nous font du bien.
Est-ce qu'il faut imaginer, parce que bon, on va être obligé de parler un peu de politique quand même, sur la politique américaine, si on voit une probabilité montante d'une vague Trump, et quand je dis vague Trump, c'est à la fois la Maison-Blanche, mais aussi l'ensemble du Congrès, à ce stade, c'est quand même là où la probabilité semble la plus importante. Alexandre, qu'est-ce que ça implique au-delà de la baisse de taux de septembre de la Fed, et est-ce qu'il faut se préparer à une dose de friction, de conflictualité entre la politique monétaire et une politique budgétaire telle qu'elle est signalée par Trump et ses équipes en cas de réaccession au pouvoir?
Je pense.
Oui.
Ça a très bien été décrit sur la repentification de la course, c'est-à-dire que c'est concentré sur un candidat qui est Trump aujourd'hui. C'est que d'un côté, il va peut-être avoir une politique fiscale jugée irresponsable ou peu responsable par le marché qui va vous faire remonter la partie longue. Et de l'autre, il va faire pression sur la Banque centrale pour baisser les taux. Il l'avait déjà fait lors de son mandat de 2016. Mmh. Il fait des critiques publiques de la Fed dès maintenant. Alors que, en général, tacitement, il y a une espèce d'accord entre les politiques.
Un pacte de non-agression.
Voilà, il y a un pacte de non-agression entre les deux. Donc lui, il fait complètement, il fait absolument pas cas de ce pacte. Et surtout, il a la possibilité de renouveler ou pas Jérôme Powell en 2026. Donc il a quand même des moyens de pression. Et on a vu Jérôme Powell déjà craquer sous la pression de Donald Trump.
Donc, vous parlez quoi, 2019.
Donc, alors qu'il n'y avait pas spécialement besoin de baisser les taux à ce moment-là, enfin de suivre ce que lui disait Trump. Donc voilà, il y a ce risque-là. Il y a même certaines rumeurs. Je ne vais pas rentrer dans des théories du complot, mais qui disent qu'il remet en cause l'indépendance de la Banque centrale.
Oui.
C'est un gros point d'interrogation, et c'est un point d'interrogation quand même inquiétant, à mon sens. Il est nécessaire que la Fed reste indépendante. Donc on verra à ce moment-là.
N'importe quelle institution américaine se prépare à quelques coups de boutoir. Il y aura forcément des coups de boutoir.
Complètement. Donc ça, à mon sens, c'est le risque principal. Même si c'est le scénario qui a la plus forte probabilité aujourd'hui, il n'est pas dit que ce soit Trump qui gagne. Finalement, cette élection présidentielle, c'est un vote presque pour ou contre Trump. Et il ne faut pas oublier que ce soit Joe Biden ou pas qui se présente, on le voit encore aujourd'hui, il a un bilan économique qui est très bon. Donc ça peut jouer en sa faveur ou en faveur du candidat qui le remplacera.
Bon. C'est un problème, là, si le candidat démocrate change en cours de route dans les 2-3 prochaines semaines Alain, je ne veux pas vous emmener trop loin dans les sujets politiques, surtout de politique américaine, mais encore une fois, du point de vue du marché, des investisseurs, on voit quand même que le facteur politique est au moins à court terme un driver à suivre.
D'un point de vue strictement économique, Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il sera toujours pro-business, à mon avis. Donc, quelque part, ça ne peut pas être mauvais pour les marchés si c'est Trump. Et aujourd'hui, au-delà du programme de Trump, le principal supporter de Trump, c'est Biden, puisque sa faiblesse, en fait, ne le rend pas éligible. Donc si jamais il y avait un nouveau candidat, on pourrait arguer qu'il y a une sorte de déstabilisation, mais en réalité, ça pourrait remettre éventuellement les cartes en jeu. La question est qui il mettrait en face. C'est Hillary Trump, je pense pas.
Hillary Trump. Oui.
Un peu de truc. Si c'était Kamala Harris, je pense qu'elle a. Bon, le vice-président est toujours effacé, mais elle n'a pas vraiment réussi, j'ai l'impression, la transformation de l'essai.
Et si elle avait dû être prête, on l'aurait su.
Michelle Obama, par exemple. D'accord, mais ça peut être. C'est le genre de trucs qui peuvent changer éventuellement, une sorte d'inconnu.
Oui. Une incertitude.
Qui peut changer les choses. Mais à ce stade, pour l'instant, c'est Trump, de toute façon.
Oui.
Enfin, le consensus est sur
Trump.
Oui. Et sauf miracle, pour l'instant, c'est ça qui va arriver.
Comment vous voyez, d'ailleurs, les marges de manœuvre de la Fed au-delà de septembre et peut-être une autre encore d'ici la fin de l'année? Parce que je vois quand même que, là, sur le print, c'est des mouvements de court terme, mais le marché est tout de suite tenté d'augmenter encore un peu plus la probabilité, le nombre de baisses de taux qu'on aurait en 2025. Ça se renforce à chaque fois. Et c'est vrai que il faut imaginer un monde où ce soit possible, quand même, François. Et je crois que jusqu'au taux terminal, c'est 200 points de base de baisse de taux qui sont anticipés par le marché, partant de 5,25, 5,50, quoi.
Oui, tout à fait.
Il faut les placer, quand même, les 200 BP.
Oui, bon, ça paraît pas impossible.
Ouais.
Si l'inflation retourne vers 2%, ouais. Il n'y a pas de raison de voir des taux courts américains qui restent au-delà de 4%. Ça fait des taux réels de court terme qui seraient un peu trop élevés. Donc non, moi, je vraiment sur les anticipations de taux courts du marché, j'ai pas grand-chose à redire.
Ouais, ouais. C'est en ligne avec ce que vous imaginez.
C'est en ligne avec ce qu'on imagine. Bon, après. Se posera la question de savoir effectivement si on a les mêmes personnes à la tête de la Fed ou pas. Je pense que paradoxalement, si on devait avoir Donald Trump qui était élu président avec les pleins pouvoirs, ça pousserait peut-être la Fed à être obligée d'être plus au quiche parce que une politique budgétaire très expansionniste, parce que peut-être une perte de confiance dans le dollar,
dans la monnaie,
et que il est possible que les marchés américains soient en train de changer de paradigme et soient en train de passer d'une réaction ou d'un mode opératoire qui est celui d'un marché développé vers celui d'un marché émergent. Mmh. Et des conflits entre l'exécutif et la banque centrale, ben, y en a dans beaucoup de pays émergents. On le voit au Brésil aujourd'hui, on l'a vu en Turquie pendant pas mal d'années. Et bon, on sait qui a le dernier mot in fine, hein. Ouais. Ça reste toujours l'exécutif en général. Ça n'a pas été le cas dans les pays développés jusqu'à présent, où c'est la banque centrale qui garde la main. Bon, on verra s'il y a ce switch. Je pense que ce sera quelque chose de très important
pour le statut du trésor américain, enfin des treasuries, du dollar, etc.
Ouais, tout à fait.
Pas la première fois qu'on entend l'idée, alors ça paraît un peu, j'allais dire, grossier de dire que les États-Unis seront perçus peut-être demain comme des émergents, pas sur le plan du PIB par habitant, j'imagine, mais sur la question de l'indépendance, des institutions, des garanties, etc., effectivement, il y a des lignes qui vous placent dans un camp ou dans un autre. On va dire les choses comme ça. Bah tiens, parlons de l'Europe et de la France. Comment vous avez vécu la première séquence, là, ce que j'appelle la première séquence avant les rendez-vous de l'automne, autour évidemment de la trajectoire des finances publiques françaises, qui, je le rappelle, continue de s'aggraver. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'exécution budgétaire est encore pire, alors à la marge, que ce qu'on a observé sur les 5 premiers mois de 2023. Donc le compteur qui tourne, il est là, François. Le marché, effectivement, attend de voir avec grande sagesse, j'ai envie de dire. comment on imagine la suite, et est-ce qu'il y a déjà une perte de statut pour l'OAT française, qui est, j'allais dire, presque irrémédiable, en tout cas qui ne sera pas corrigée là dans quelques mois, ou voire quelques trimestres, et même peut-être quelques années.
Alors, il faut avoir une capacité de projection, un esprit d'imagination assez important aujourd'hui quand on regarde la politique française, parce que c'est vrai que d'un jour à l'autre, les choses changent. On voit beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont pu gagner cette élection, d'autres qui pensent que personne ne l'a gagné, et in fine, les implications peuvent être importantes sur la trajectoire du déficit. Néanmoins, indépendamment de la trajectoire à venir, la trajectoire actuelle est mauvaise, je pense que on s'achemine sans doute vers deux scénarios possibles, hein, soit un scénario où le NFP est nommé à la tête d'un gouvernement qui tiendra le temps qui mmh. tiendra, mais qui sera pas forcément très positif pour l'évolution des finances publiques françaises. Soit le NFP n'est pas nommé au pouvoir, et on risque d'avoir quelques débordements sociaux. Donc, dans les deux cas, on est quand même sur quelque chose de plutôt négatif, ouais. À notre sens.
C'est pas du bruit positif, oui.
Non, c'est pas du bruit positif, c'est du bruit négatif. Je pense que l'épée de Damoclès de l'élection présidentielle de 2027, tout le monde l'a en ligne de mire. Elle pourra éventuellement être avancée, hein, cette élection présidentielle. Donc, il me paraît assez difficile d'imaginer un retour du spread OAT Bund sur ce qu'il était avant cette séquence. Il est aujourd'hui, il s'est resserré de quelques points de base depuis c'est plus large avant le entre les deux tours.
Ouais. Ouais.
Mais il faut avoir en tête, moi j'aime bien le regarder, pas uniquement ce spread de T-Bund, mais le regarder aussi par rapport à, au spread BTP Bund, par rapport au marché equity, par rapport à l'ensemble des...
Nos concurrents sont là aujourd'hui, j'ai envie de dire. Hein. Comment préparez-vous, parce que je vais vous poser la même question, mais qu'est-ce que vous avez pris comme décision en tant que gestionnaire d'actifs, de portefeuille, sur la partie obligataire et crédit? Enfin, vous n'êtes pas obligé de détenir de l'AT, vous n'êtes pas des investisseurs contraints de ce point de vue-là, mais quand même, enfin, je veux dire, ça fait partie des actifs standards, j'allais dire, dans des allocations. Quelle décision vous avez prise, là, sur les 2, 3, 4 dernières semaines?
Nous, on est très prudents sur le marché des OAT. C'est vrai qu'il y a potentiellement du bruit, de la volatilité à venir. Et malheureusement, on n'est pas suffisamment rémunéré pour détenir ce risque aujourd'hui. Donc, on préfère rester à l'écart du marché des OAT. Peut-être qu'il y aura des jours meilleurs pour y revenir. Mais aujourd'hui, le pricing de marché ne nous paraît pas suffisamment représentatif du risque que l'on prend quand on investit sur la dette de l'État français.
Et sur d'autres actifs français, la partie actions, impossible de ne pas être sur les actions françaises, bien sûr.
Sur la partie actions, c'est un peu différent parce que, d'une part, les actions françaises sous-performent quand même très fortement le reste des actions européennes depuis le début de l'année. Mmh. Donc là-dessus, j'ai tendance à dire que la décote, s'est produite. Contrairement à ce qu'on voit sur les OAT à l'intérieur du monde souverain, et ce qu'on voit sur le fixed income de manière générale, sur le marché obligataire, la dette des entreprises françaises, c'est pas détériorée. Vraiment la partie action qui est assez bon marché aujourd'hui et qui offre des opportunités d'investissement, d'autant plus qu'on est sur les entreprises qui, pour la plupart, se font quand même une partie significative de leur chiffre d'affaires à l'international. Ouais.
Même si parfois le code postal peut être un peu pénalisant, pour des investisseurs globaux qui ne font pas forcément dans le détail à chaque fois. Bon, quelle décision vous avez prise chez Sycomore sur cette situation française spécifique Et est-ce qu'il faut imaginer, moi je me mets toujours à la place du fonds de pension japonais ou du fonds de pension du Texas, enfin, est-ce qu'on imagine une baisse structurelle de la place des actifs français dans les allocations globales?
Si on se met à la place du fonds du Texas, on peut imaginer ça, effectivement.
Parce que c'est quand même ça. 53% de la dette française est détenue par des non-résidents, et c'est la veuve d'Osaka et la veuve de Dallas, quoi.
Surtout, il y a eu quand même une séquence où on a pu analyser les flux et voir qui vendait à quel moment.
Ouais.
Donc, il y a eu la dissolution.
Ouais.
Le lundi et le mardi, c'est globalement les Français et les Européens qui sortent du marché action français.
Ouais.
Le mercredi, ça remonte. Et le mercredi soir, il y a l'union de la gauche.
Oui.
C'est le jeudi que les Américains vendent.
Ah oui. Ouais.
Donc en fait, il est là le sujet.
Ouais.
Est-ce que le NFP va être au pouvoir ou pas?
Pour l'investisseur global, c'est ça la question.
Pour l'investisseur global, c'est ça.
Est-ce qu'il y a une rupture dans la conduite de la politique économique française ou est-ce qu'on reste dans quelque chose qui navigue à la marge, quoi?
Et c'est même historiquement, c'est le seul événement que j'ai trouvé où un facteur politique a un impact un peu plus long que le court terme.
Mmh.
C'est 81, l'élection de Mitterrand.
Oui.
Donc il y a quand même un parallèle. Sinon, non. C'est-à-dire que dans les scénarios qui ont été évoqués, ce que je vois, et en tout cas avec la lettre publique d'Emmanuel Macron hier, on peut se dire qu'il va arriver à peu près à faire une espèce de coalition large, une espèce de gloubi-boulga entre le PS et les Républicains, et nommer un Premier ministre comme ça, en faisant une espèce de droite à la Nicolas Sarkozy, où vous pouvez avoir un ministre des Affaires étrangères de gauche, un ministre de l'Intérieur de droite, et donc ratisser large, au moins jusqu'en 2027.
Ouais, la question là-dessus, c'est l'attitude de la France insoumise.
Oui.
Et ce que vont faire les gens dans la rue derrière? Est-ce qu'on va avoir...
Le risque social.
Oui, mais justement, s'ils se marginalisent et qu'ils sont définitivement exclus de l'axe républicain, c'est exactement ce qui est recherché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le divorce au sein de la gauche est difficile à faire.
Oui, mais dans un premier temps, si on a effectivement beaucoup de monde dans la rue, je ne suis pas sûr que ce soit vu positivement par les marchés ou même par les chefs d'entreprise.
Moi, ce qui m'intéresse, si j'étais investisseur obligataire, c'est quand même de comprendre les garde-fous qu'il y a, quelle que soit la gouvernance politique demain, encore une fois. je veux dire, en absolu et en relatif, la trajectoire de finances publiques françaises est un sujet d'urgence. La base de négociation que propose Bruxelles, c'est ce que rapportait Bloomberg ce matin, c'est plutôt que de revenir sur les 3% en 3 ou 4 ans, on vous propose de le faire en 7 ans, et pour ça, c'est 15 milliards d'euros de correction de l'exécution budgétaire par an. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui paraît réaliste, réalisable, quelle que soit la plateforme politique demain? Est-ce qu'il y a des garde-fous sérieux qui permettent d'encadrer ce chemin-là? Ou est-ce que il faut imaginer que non, on ira chercher et tester toutes les possibilités avant de revenir dans ce chemin-là?
Bah, disons que ça fait à peu près 40 ans qu'on fait un peu n'importe quoi et que tout le monde s'en fiche.
Oui, mais on avait donc la stabilité politique qui permettait de, et le poids qui permettait de s'offrir ce genre de comportement.
Alors, pas par rapport à ça, moi, je dirais que les 65 bips de spread, c'est presque comme s'il ne s'était rien passé. Nous, on est sortis de l'OAT française il y a 6 semaines.
Oui, beaucoup me disent que c'était les 40 BP avant qui étaient anormaux. Oui,
on était sortis avant les élections, de toute façon, donc avant la dissolution, etc. Mais je dirais maintenant, il y a deux scénarios, effectivement. Soit un scénario plutôt NFP.
Oui, mais on l'a dit, oui, je suis d'accord.
Là, je pense que ça va aller beaucoup plus bas. Mais en même temps, ce qui s'est passé en Angleterre montre bien que s'il y a une perte totale de confiance des marchés, un gouvernement ne peut pas tenir, sauf à aimer le Venezuela, mais il y a des limites, je pense. Et puis sinon, ça peut être un gouvernement peut-être plus à droite, avec une certaine orthodoxie budgétaire. Alors, ça ne plaira pas à LFI, mais ils seront dans la rue, mais ce n'est pas ça la République, a priori.
Et donc, c'est mais on est sûr de l'orthodoxie budgétaire. Enfin, la plateforme du RN. Enfin, je suis désolé.
Non, pas le RN. Non, mais un gouvernement.
Ah bah oui.
Non, mais moi, ce que j'ai aimé dans les élections, c'est
à droite.
Si le RN avait été proche de la majorité sans l'avoir, quelque part, pour faire un arc républicain contre le RN, il aurait fallu accepter LFI. Là, la bonne nouvelle de ces élections, de mon point de vue d'un point de marché, c'est qu'on peut faire une majorité sans LFI et le RN. Après, c'est effectivement très compliqué d'accoucher de ça, forcément. Mais à partir du moment où c'est possible, ça laisse un espoir aux 65 bips.
Okay.
Pour moi, les 65 bips jouent le fait qu'on va avoir un gouvernement, entre guillemets, raisonnable, qui fera ce qu'il peut. Il ne va pas forcément faire une politique très austère pour réduire la dette, parce qu'en France, on ne sait pas faire, mais au moins, il stabiliserait.
Ah, là, je crois qu'on demande de...
Quand je
crois que le marché... Enfin, la demande du marché qui devra être satisfaite, c'est pas juste de stabiliser, je crois, à un moment, quand même.
Pour résumer, si on avait toujours eu Macron, il aurait fallu trouver 20 à 30 milliards d'économies.
Oui.
Et les autres, ils proposent que des dépenses. Alors,
ah non, mais c'est... Oui, d'accord. Bon. Bruxelles nous propose un plan en 7 ans. Donc, c'est déjà une base de négociation qui...
Et puis après, il y a l'autre partie.
Qui semble intéressante, enfin, sur laquelle on va falloir discuter.
C'est que... La raison pour laquelle on est très sympa avec les États-Unis quand ils ont des gros déficits, c'est qu'on se dit qu'ils vont être capables de nous sortir une croissance inattendue avec leur boîte de techno. Nous, c'est bien de...
D'accord.
Mais il faut aussi que les entreprises se développent et soient capables de créer de la richesse. Ça, c'est une autre question aussi.
Il y a peut-être aussi moins de garde-fous disciplinaires autour de la dette américaine. Il n'y a pas la procédure de déficit, etc. Ouais. Enfin, il y a des warnings, mais il n'y a pas... Alexandre.
Je reviens juste sur question précédente sur le positionnement, parce que j'aurais juste voulu terminer rapidement.
Ah oui,
sur la partie
qui a vendu.
Action,
oui.
Il y a un élément qui a été dit par François juste avant qui est intéressant. C'est-à-dire que, premièrement, on a des opportunités. Deuxièmement, on a une tendance qui prévaut depuis le Covid sur le CAC 40 qui n'a absolument pas été remise en cause par la baisse récente. Et donc, nous, on va se concentrer sur des entreprises qui ont effectivement un business essentiellement international, qui font du rachat d'actions, souvent c'est annoncé, donc s'il n'y a plus de flux, autant que ce soit les entreprises elles-mêmes qui le font, et celles qui versent de gros dividendes. On pense que c'est un petit peu plus sécuritaire, au moins en transition, avant qu'il y ait un nouvel élan un peu plus positif. Le côté positif, moi, que je retiens de cette dissolution, c'est que ça a mis en lumière le problème du budget français, beaucoup plus qu'avant. Là où, même si on n'avait pas eu la dissolution de l'Assemblée, il faut quand même savoir que sur les 3 dernières années de son mandat, il n'y avait aucune réforme d'envergure de prévue, à part celle de l'assurance chômage, c'était la dernière.
Oui.
Bon, là, il en faut d'autres réformes. Donc, à un moment donné, ça va être nécessaire. Il va falloir les faire.
Au niveau européen, est-ce que ça peut... Alors, et le choc d'incertitude généré par la France et également le résultat des élections européennes. Ne l'oublions pas, tout par-delà pour la France, mais enfin, l'Europe est en train de recomposer son Parlement, bien sûr, et toutes les postes clés, les institutions qui suivront avec une nouvelle commission qui sera installée en novembre. Est-ce que ce nouveau paysage politique remet en cause certains thèmes d'investissement pour vous ou pas, Alexandre, si vous voulez garder la parole?
Ça ne remet pas spécialement en cause. Alors déjà, j'attends de voir le paysage politique, ouais. Au final, au moins le gouvernement. Il y a une nouvelle, peut-être, au niveau de l'Europe aujourd'hui qui m'a marqué, c'est une espèce de préannonce de von der Leyen qui nous explique qu'elle prépare une espèce de big bang budgétaire pour l'Europe et que ce serait plus un montant déterminé, mais projet par projet en fonction de si vous respectez ou pas les critères. Donc ça change quand même pas mal la
donne. Cadre un peu plus coercitif de ce point de vue-là.
Exactement. Ouais. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Elle interviendra à Strasbourg la semaine prochaine, donc j'attends de voir ce qu'elle va annoncer.
Bon, sur l'Europe, si vous souhaitez, Alain, puis je veux bien qu'on revienne un peu quand même sur les résultats d'entreprise. Ouais. Alors ça va être la partie américaine, mais encore une fois, sur les entreprises européennes, françaises, qu'est-ce qu'on attend? Parce que c'est vrai que en plus, le sujet politique français vient au moment où le cas d'investissement européen trouvait un peu plus d'intérêt, de momentum. Il y avait ce petit décollage de la croissance, des baisses de taux enclenchées et à suivre de la part de la BCE. Tout ça redonnait pour des investisseurs globaux de l'intérêt vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que ça, c'est déjà derrière nous ou est-ce que non? C'est quand même un chemin qu'on peut encore imaginer.
Sur l'Europe, il y a... Le Parlement est un peu plus à droite, mais les grandes masses n'ont pas bougé. Donc je pense que c'est...
La majorité reste un bloc centriste.
Il y aura peut-être, par exemple, l'extinction des thermiques en 2035. Je sens que le Parlement serait un petit peu moins volontariste sur ces questions-là. Donc là, ce serait le seul élément de prudence. Mais sur le reste, je ne pense pas qu'il y aura de gros...
Mais ça ne remet pas en cause les thèmes d'investissement qui vont derrière.
D'accord. Ce sera un petit peu moins coercitif sur l'agriculture, sur les plans assiettes 2.0 pour les agriculteurs et sur la question du...
Oui. Du renouvelable. De la ferme à la fourchette, oui, d'accord. Okay. Voilà.
Sinon, pour le reste, non, a priori, ce qui peut évoluer, c'est... Voilà, sur les sociétés, oui.
Oui, les entreprises.
On était plutôt parti sur une dynamique où les États-Unis...
On révisait à la hausse les prévisions bénéficiaires des entreprises, là.
Rebondissaient en partant d'une base très faible.
Oui.
Alors, c'est vrai que là, le risque, c'est que l'attentisme pourrait un petit peu tuer dans l'œuf le début de reprise européenne. Cela dit, je ne pense pas vraiment que ça le remettrait totalement en cause. Et puis, on a malgré tout, en élément de fond, ces baisses de taux qui ont commencé en Europe, qui visiblement vont aussi commencer aux États-Unis. Et ça, si on prend un peu de distance par rapport à la France, ça reste quand même du vent arrière. Donc ça va rester là. Et je pense qu'il faut quand même garder un petit peu raison. C'est des éléments de soutien qui sont très forts. Voilà. Maintenant, sur les résultats stricto sensu, je ne suis pas persuadé qu'ils vont être extraordinaires.
J'ai fait la liste, Dassault, Verallia, il y a eu PageGroup aussi au UK, le monde des RH et du recrutement, Michelin, L'Oréal qui ont un peu guidé à la baisse, il y avait le gros warning de Nike fin juin, aujourd'hui c'est Pepsi et Delta qui ratent leur publication.
Oui, quelques...
Je ne sais pas si ça fait une tendance, mais...
Forcément, ceux qui sont préalertes, en général, sont ceux qui ont des mauvaises nouvelles. Hein. Quand on alerte positivement, ça arrive aussi, mais il faut que les nouvelles soient exceptionnelles.
Oui, j'entends.
Donc c'est un peu dissymétrique. Mais pour autant, pour l'instant, je trouve qu'effectivement, on a quand même un certain nombre de warnings qui ne sont pas très encourageants, je dirais, pour la publication de résultats à venir. Et puis, par ailleurs, l'environnement peut pousser les sociétés à être aussi un peu prudentes en termes de perspectives, puisque aujourd'hui, selon les scénarios, c'est pas...
On le serait à moins, oui.
Donc, je ne suis pas certain que la saison des résultats va être très supportive. Alors, maintenant, aux États-Unis, comme tout le monde attend la baisse des taux, si on a des résultats qui sont un peu moins bons,
je comprends.
Ça peut aussi soutenir la thèse baisse des taux, donc tant qu'à faire... Ça ne sera pas forcément dramatique pour les marchés, mais effectivement, pour la première fois, je ne sais pas si les résultats vont être exceptionnels.
Bon, ça veut dire
confirmé quand même. Hein.
Comment on s'organise pour traverser cette période estivale là, sur les marchés? Est-ce que l'idée, c'est quand même de tactiquement au moins de réduire un peu la voilure? Est-ce qu'il y a des segments de marché avec lesquels on est encore particulièrement confortable et qu'on n'a pas envie de quitter aujourd'hui?
C'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la consommation, on sent que ce n'est pas encore évident. Tout ce qui est lié, en revanche, les grandes thématiques type l'IA, les boîtes comme Schneider, la transition énergétique, on sent que ça continue quoi qu'il arrive.
Hein. D'accord. Oui.
Donc, après,
non, mais c'est bien, ces tendances-là se valident malgré l'incertitude du moment. Quoi.
Ouais. Donc c'est plutôt les boîtes un peu cycliques qui, à mon avis, vont encore une fois être un petit peu décevantes. Mais...
Bon, sur la logique d'investissement, justement, chez Sycomore Asset Management, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Où est-ce que vous êtes encore à l'aise? Où est-ce que vous l'êtes peut-être moins ou beaucoup moins aujourd'hui, Alexandre?
Alors, bon, logiquement, si on a bien fait notre travail en allocation, on a un peu profité du début d'année.
Ouais.
Quand même. Donc, ouais. On réduit un petit peu la voilure, on a un cash qui rémunère. Donc on est un petit peu plus défensif, on peut pas se désengager totalement non plus parce qu'on profite de la tendance, notamment aux États-Unis. Je suis d'accord sur les thématiques avec ce qui vient d'être dit, hein, sur le renouvelable, on change absolument pas notre position. Sur la consommation, on fait beaucoup plus de stock picking parce que vous parliez de Nike. Mm. C'est quand même assez spécifique à Nike, hein, c'est-à-dire que Nike vient d'une espèce de bulle du Covid où le direct to consumer marchait très très bien.
Puis ils se font prendre des parts de marché par d'autres acteurs qui arrivent, etc. aussi. Voilà. Oui,
non, dans le même temps, fast retailing, donc Uniqlo, remonte ses guidance.
Visiblement,
donc, voilà, la consommation c'est très large, il faut regarder titre par titre. Mais voilà, globalement, on reste sur nos tendances de long terme. Je pense que, comme je le disais un petit peu avant, sur les entreprises qui font du share buyback, les entreprises qui versent du dividende, et les entreprises qui ont une valorisation écrasée, regardez les banques aujourd'hui, européennes.
En Europe, ouais.
Et ou françaises pour les plus téméraires, c'est intéressant.
Ouais. Pour conclure avec vous sur la logique d'investissement du moment chez vous, chez DNCA, François.
Oui, bah effectivement, on est sur des niveaux de valorisation qui sont... je trouve que les écarts de valo sont très importants. Au sein de la côte américaine, on est sur quasiment 19% depuis le début d'année sur le S&P.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on finirait à 38? J'en doute. C'est pas impossible, hein. Je ne mettrai pas ma main à couper le feu, mais j'en doute. Donc, oui, un peu plus de prudence, je pense. Ça me paraît important. Il y a des choses à faire sur les equities européennes, sur une partie de la cote. Effectivement, les banques françaises nous semblent assez décotées. C'est vrai que cette prime de risque qui pourrait se matérialiser due à un gouvernement qui aurait les mains libres pour venir taper sur les banquiers, j'y crois dans les faits assez peu. Est-ce que, par contre, on aura un gouvernement qui fera de l'orthodoxie budgétaire? J'y crois assez peu également aussi.
Ouais.
Donc, plutôt plus de prudence sur la dette française que sur la partie action.
Ah, j'ai bien compris ça.
Et voilà un petit peu le message qu'on cherche à avoir aujourd'hui.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. François Collet, DNCA, Alain Dubrulle, Claresco et Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management.